le temps buissonnier. Le temps buissonnier partagé aujourd'hui avec Bruno Mantovani, directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, mais il est aussi compositeur et chef d'orchestre. Et il est accompagné de Mathilde Klein, qui est violoniste, qui est en dernière année. C'est-à-dire qu'elle va passer le concours dans moins d'une semaine, concours de violon bien sûr. Et tous deux viennent nous parler d'une expérience et d'un futur. L'expérience était au Brésil, à São Paulo, et l'avenir, c'est à Paris. Carmela et Negrito, son ami le Grillon, sont venus à Paris pour préparer le troisième tour social, comme ils disent. Dès leur arrivée, ils ont commencé à me stresser par leurs protestations et autres contestations. Nous étions en train de marcher dans la rue vers le métro, à la sortie de la gare Montparnasse, quand Negrito se mit à voleter comme un forcené en hurlant « les drapeaux, vous avez vu les drapeaux sur les bus ?»« Quels drapeaux ?»« Mais les drapeaux de Paris 2024, ville olympique !»« Et alors, pourquoi te mettre dans un tel état ?»« Évidemment, évidemment, toi, rien ne te choque, tout passe sur tes plumes !» me répondit avec mépris Negrito. « Carmela !» Explique-lui, moi, elle m'agace déjà. Te vexe pas, mais Negrito n'a pas tout à fait tort. Ces drapeaux sont ridicules. Ils font des petites antennes au bus, on dirait des chenilles. Oui, d'accord, ce n'est quand même pas pour cela que vous devez vous mettre dans de tels états, non ? Non, mais c'est le coup d'état de la mairie de Paris, pour imposer les jeux, qui nous met dans cet état. Coup d'état ? Vous êtes devenu fou quand même. Non, non, non. Regarde comment se passe la visite des membres de la commission d'évaluation du CIO accompagnée d'Anne Hidalgo. Comme dans Le Roi est nu, tu vois, on a dessiné une visite éclair dans un beau décor de rêve. Les journalistes ont été tenus à l'écart des officiels du CIO, au cas où. C'est démocratique, cela, pour toi ? Bon, d'accord, oui, j'avoue que c'est de la com, que veux-tu ? Et Thierry Rey, conseiller spécial du comité Paris 2024 ? Quoi encore? Qu'est-ce que vous avez à redire encore? Eh bien, il a osé vanter la qualité des transports parisiens à Saint-Denis, alors que les usagers de la ligne 13 protestent et souffrent depuis des années et des années chaque jour sur cette ligne. Même le journal Le Monde, ça doit être tes copains, j'imagine, c'est pas des gauchistes. Eh bien, ils ricanent. Tiens, écoute, voilà ce qu'ils disent. Avec la voie réservée à la famille olympique, comme on dirait la famille royale, les sites seront les uns à côté des autres, explique-t-il, pendant que les motos des policiers libèrent un couloir du périphérique pour que les bus ne soient pas bloqués dans les bouchons. Et les promesses, une fois les jeux terminés, un éco-quartier devrait habiter 3000 logements. Demandez aux favelas de Rio. Ils ont l'expérience, eux, des promesses en campagne pour obtenir les JO. Bon, d'accord, mais moi j'ai lu que les membres se félicitaient de leur visite à Paris. Je les cite, moi aussi. La passion et l'enthousiasme pour les Jeux sont grands et impressionnants à Paris. Mais alors là, tu t'es encore fait avoir. Qu'ont-ils vu, en fait ? Des sportifs impliqués dans la candidature, l'Élysée, de bons restaurants et des bus climatisés avec des petits drapeaux. Cela rappelle vraiment Le Roi est nu ou un safari pour Occidental, un mal d'aventure à qui on laisse tirer des animaux anesthésiés. Bruno Mantovani, vous êtes directeur du conservatoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, compositeur et chef d'orchestre, et ce n'est pas la première fois que vous faites cette émission. Mais il y a une raison pour cela, parce que depuis que vous dirigez le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse, vous avez, je crois, j'en suis sûre même, associé les élèves, les étudiants plutôt, à la vie artistique dès le début, c'est-à-dire en leur offrant des occasions de jouer dans des salles, devant un public, et aussi à s'ouvrir au monde, à toutes les pratiques. Et de même, du côté du public, votre souci est d'ouvrir à des gens très éloignés de la musique classique, de la musique savante, de la musique contemporaine, des publics, pour leur donner déjà cette ouverture, ce bonheur peut-être, et qui sait, l'idée de devenir musicien. C'est pour ça aussi que vous êtes souvent dans cette émission qui s'adresse aux jeunes, enfin en tout cas aux vieux qui ont affaire avec les jeunes, dans cette idée que rien, il n'y a pas de frontières en musique.
Il n'y a pas de frontières, il y a surtout un enrichissement qui est réciproque. On a au conservatoire, parmi, je dirais, l'élite des jeunes musiciens et des jeunes danseurs sur le plan international, qui proposent forcément un moment de passer à l'acte, c'est-à-dire d'être sur scène et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et évidemment, on a envie de partager ce joyau, ces joyaux artistiques avec le plus grand nombre. On pourrait se limiter au public qui a l'habitude du concert, qui est abonné à la Philharmonie ou à l'Opéra de Paris ou dans des grandes salles ou à Radio France, évidemment. Mais ça me semblerait être quelque chose de très réducteur. Je pense que si la musique classique continue à apparaître, je dis bien à apparaître, hein, comme un art bourgeois pour une élite, elle n'aura pas une espérance de vie très très optimiste. Je voudrais dire par là que, en fait, il y a cette barrière de la langue qui existe dans le théâtre, mais qui n'existe pas dans la musique. Il y a ce côté universel, même s'il y a des musiques savantes dans tous les pays du monde, et que Mozart ne parle pas forcément à quelqu'un qui vient, par exemple, d'un pays asiatique où la musique classique traditionnelle est totalement autre. Or, précisément, on se rend compte, notamment dans les classes de violon, de violoncelle, de piano, qu'il y a beaucoup d'élèves asiatiques qui viennent étudier la musique classique en France. C'est donc bien la preuve que ces langages-là peuvent être appropriés par absolument tout le monde. Là-dessus, il y a aussi une préoccupation sociale très forte. On parle beaucoup, dans les campagnes électorales, on en sort d'une, on entre dans une autre, d'élitisme culturel et de partage avec le plus grand nombre. Il ne me semble pas que la musique classique soit un art élitiste. En tout cas, c'est pas l'élite du fric. Il est beaucoup plus cher, beaucoup plus coûteux de s'acheter un billet pour un match de football que pour aller écouter un quatuor à cordes. Mais il y a une élévation dans les disciplines artistiques les plus nobles. Et cette élévation, elle mérite aussi une forme d'initiation qui peut être totalement, je dirais, naïve, totalement premier degré, mais on a besoin aussi à un moment de se confronter à cela. Et c'est pour ça que, pour moi, la démocratisation culturelle, ce n'est pas baisser la qualité de l'objet que l'on offre au plus grand nombre, mais bien au contraire, essayer d'élever le plus grand nombre pour qu'ils comprennent la valeur de ce qu'on représente.
Alors, Mathilde Klein, vous êtes jeune, vous êtes en dernière année d'études du conservatoire supérieur, en violon. Comment est venue la musique classique à vos oreilles, à votre cœur, et puis dans vos doigts aussi maintenant?
Alors moi, je viens d'une famille de musiciens très bons amateurs, on va dire. Je veux dire qu'il n'y a pas eu de musiciens professionnels, mais bon, voilà, j'avais un arrière-grand-père qui était un peu le professeur de musique du village et puis de la famille, enfin qui a fait, voilà, qui a appris à toute la famille à toucher les instruments et tout ça. Et puis mon papa est luthier pour les instruments à vent, et donc mon grand frère et ma grande sœur ont naturellement fait de la musique. Ils n'ont pas continué professionnellement après, mais voilà. Et je pense que du coup j'ai toujours entendu de la musique depuis que je suis dans le ventre de ma mère, et j'ai naturellement demandé un violon à 4 ans. Un violon, je ne sais pas pourquoi, vraiment. C'était vraiment tout naturel.
C'était votre instrument, dès le début?
Oui, voilà. Quelque chose d'inné. Il n'y avait pas spécialement de... Je ne saurais pas dire pourquoi, en vrai.
Alors, ça, c'est... Voilà, c'est pas forcément la culture bourgeoise, mais il faut... Quand il y a un bain, ça aide. Un bain musical, comme c'est le cas pour Mathilde Klein. Vous êtes allée jouer dans un partenariat avec le Brésil, vous êtes allé jouer dans la salle San Paolo, à San Paolo, et vous avez exigé dans ce contrat de 4 concerts que l'un se passe dans cette salle prestigieuse et l'autre, et les 3 autres, se passent dans les favelas. Comment s'est fait cette rencontre de cette musique classique et avec des instruments qui ne sont pas forcément des instruments à la portée de tous, qu'on habite d'ailleurs dans les favelas du Brésil ou dans nos quartiers populaires?
Je connaissais le Brésil, j'avais déjà dirigé mes programmes très contemporains là-bas, et je connaissais cette salle merveilleuse, la Sala San Paolo. Et j'avais été un petit peu choqué de voir que les institutions culturelles locales, très hautement subventionnées, très très beau budget en fait pour la musique classique là-bas, n'étaient pas très sensibilisées au problème précisément du partage. Et quand on a eu l'idée avec mon homologue de São Paulo, qui s'appelle Paulo Zuben, de monter un programme où nos élèves, ou 12 élèves du Conservatoire de Paris, travailleraient avec des élèves du Conservatoire de São Paulo et de créer donc un orchestre mixte, j'ai tout de suite suggéré à Paulo qu'on entoure ce projet aussi de cette dimension sociale qui m'est très chère et qu'on essaie d'aller aussi jouer dans des territoires où la musique classique est un petit peu absente. Alors d'abord, la musique classique est absente, mais pas la musique. Il y a une tradition populaire très forte,
très forte au Brésil, bien
et
sûr.
Très riche et très intéressante. Mmh. Et il faut dire que la musique populaire brésilienne, même la musique de variété brésilienne, est quand même extrêmement intéressante, extrêmement belle. Et tous les grands créateurs, notamment de Bossa Nova et autres, sont des grands mélodistes, sont des grands orchestrateurs. Donc il y a de toute façon quelque chose dans l'oreille brésilienne qui intègre le rythme et qui intègre, j'allais dire, une forme d'hédonisme.
Et qu'est-ce que vous avez choisi, du coup, comme programme ?
Alors, on voulait faire de la musique française, évidemment, parce que c'était intéressant de partager notre expérience française avec les élèves du conservatoire là-bas. Donc, on a eu dans notre programme à la fois Ma mère loi de Maurice Ravel, dont on avait joué un extrait, d'ailleurs, d'une précédente participation dans cette émission, votre émission, chère Aline.
Je m'en souviens.
Avec Alexandre Lory, qui est notre élève du conservatoire. Mmh. Mais là, c'était la version orchestrale qu'on a proposée au public brésilien. Les danses de Claude Debussy, Danse sacrée, danse profane, avec notre professeur de harpe du conservatoire, qui est Isabelle Moretti. Le Boléro de Ravel, autre grand morceau de musique française. Et puis, au milieu, un ballet de Bartok, de Béla Bartok, qui s'appelle Le Prince de Bois, qui est une œuvre extrêmement narrative, extrêmement rhétorique. Je l'ai faite une fois ici avec l'Orchestre National de France dans des concerts, dont un concert était très jeune public. Et c'est un ballet qui marche avec l'histoire d'un prince et d'une princesse. Enfin, on ne va pas raconter ça, mais les fondamentaux du conte pour enfants sont réunis là-dedans.
Alors, on n'a malheureusement pas d'enregistrement de cette tournée au Brésil avec les deux jeunes orchestres brésiliens et français. Donc, on va écouter D'un rêve parti. C'est une composition de vous-même, Bruno Mantovani. Et peut-être nous en dire deux mots.
Oui, alors c'est une pièce de l'année 2000, donc qui est une vieillerie pour moi, évidemment. Si on a choisi d'écouter ça, c'est aussi parce que on a joué une petite pièce à moi dans les concerts brésiliens qui était une transcription, on va dire, de rythme un petit peu techno. Et ça s'appelait On the Dance Floor. Et là, donc, le mauvais jeu de mots, qui est aussi une des caractéristiques du titre, donc d'un rêve, plus loin est parti, est un peu dans la même dynamique, c'est-à-dire il s'agit à la fin de rythmes très discothèques, mais transcrits pour six instruments absolument classiques, flûte, clarinette, piano et trio à cordes.
On écoute un extrait. Je veux bien passer une nuit à rêver sur cette partition. Est-ce qu'on trouve en disque Bruno Mantovani ? Je vous rappelle que vous êtes le compositeur, mais le chef d'orchestre aussi de cette pièce, D'un rêve parti.
Oui, oui, ça existe en disque dans un label qui m'est cher, qui s'appelle Eon. Et c'est de toute façon maintenant, les disques n'existent plus, on trouve ça de façon très dématérialisée
sur
les iTunes et autres plateformes qui permettent de télécharger légalement de la musique d'aujourd'hui.
Bien, monsieur le professeur, vous êtes pianiste au départ et percussionniste. Ça s'entend un petit peu quand même.
Oui, c'est pas un exemple qu'on doit dire à la radio en cette heure très matinale, mais je ne joue du piano qu'en ayant beaucoup bu maintenant. C'est une spécialité qui...
Alors Mathilde Klein, j'espère que c'est pas ce qu'on enseigne au conservatoire. Non. Il vous faut avoir tous vos esprits pour jouer du violon. Vous allez passer le concours dans très peu de temps. Concours de sortie. Quand on est une jeune interprète, comment aborde-t-on la fin de ses études et le début de l'aventure professionnelle avec angoisse, avec doute, avec espoir, enthousiasme
Avec beaucoup de choses en même temps, ouais. Ça c'est sûr. Maintenant, c'est cinq années qui se terminent et qui ont été très belles pour moi. Et du coup, le moment du concours, j'essaye de ne pas le prendre comme un concours et de le voir plutôt comme un concert et où voilà, je vais jouer avec beaucoup d'amis sur scène et j'espère avoir des gens aussi chers à mon cœur qui seront dans la salle et d'autres peut-être que je ne connaîtrai pas.
Et d'autres qui vont peut-être vous découvrir et vous signer des contrats, qui sait. Alors justement, le fait d'avoir fait des concerts, beaucoup pendant vos études, on entend bien ce que ça apporte dans la construction, non seulement musicale, mais aussi de la confiance en soi et du désir de jouer avec d'autres. Comment avez-vous vécu cette aventure brésilienne ?
Ça a été beaucoup d'émotions mélangées encore une fois, beaucoup de découvertes parce que je pense que on est tous partis sans savoir à quoi s'attendre et donc on était tous en pleine découverte et la découverte a été juste fabuleuse parce que voilà, ça a été des rencontres humaines et musicales très très fortes. Voilà, les concerts dans les favelas qui nous sortent.
Ça se passait où ? Dans des salles, quand vous étiez dans les favelas, ou dehors ou...
Alors, c'était des centres éducatifs, où il y avait une salle de concert. Et alors, on a pu... donc, c'était des concerts de musique de chambre. On a fait aussi un concert d'orchestre. Mais on a eu la chance, dans ces centres, de pouvoir... inviter les enfants à venir vraiment sur scène, à s'asseoir sur scène tout près de nous, et c'est des moments qui sont vraiment très forts et qui sont uniques parce que voilà, on voit les regards des enfants et qui écoutent, il y en a qui s'endorment, il y en a qui gesticulent un petit peu, mais c'est voilà, c'est tout en même temps et c'est vraiment magique.
Alors ça doit être magique pour eux aussi, parce qu'être assis près d'un interprète, être au milieu d'un orchestre, c'est quand même quelque chose de précieux, qui se fait de plus en plus. Est-ce que vous avez gardé ces regards, mais est-ce que vous avez vu des désirs peut-être d'aller plus loin dans la connaissance des instruments, par exemple ?
Oui, après les concerts, c'est vrai que les enfants venaient nous rencontrer, avaient parfois envie de toucher les instruments, de voir encore de plus près... Et en tout cas, j'espère que ça leur a donné envie, quand ils sont rentrés dans leur famille, de dire, voilà, j'ai envie de faire de la musique, j'espère.
Quel but ? Pas forcément.
Pas forcément, il faut aussi former des bons auditeurs, c'est très important. On n'a pas besoin uniquement d'avoir des praticiens, mais c'est vrai que le fait de passer par la case pratique donne une autre vision des disciplines. Peut-être rajouter à ce que vient de dire Mathilde, que d'abord il y a eu un travail des élèves du conservatoire de ce qu'on appelle la médiation, c'est-à-dire de parler... Oui. Des œuvres au plus grand public, qui n'est pas une chose si facile.
J'ai vu ça une fois, c'est formidable.
Hein. C'est très important de pouvoir dire pourquoi, ne serait-ce que de dire pourquoi on aime une œuvre. Et la deuxième chose, c'est aussi de dire qu'outre les enfants, il y avait des familles, il y avait des parents. Et c'est un petit peu comme au Venezuela, avec les expériences faites dans El Sistema. Si on sensibilise aussi les parents, c'est parce que d'abord, c'est eux qui représentent l'autorité, mais ça permet aussi de faire sortir toute la cellule familiale, j'allais dire, de la misère ambiante. Dans les trois favelas qu'on a joué, peut-être la première était la plus, la plus vivable, mais enfin, on était allé dans des quartiers qui étaient très, très, très difficiles, avec beaucoup de violence, de prostitution, de drogue, etc. Et moi, ce qui m'a le plus surpris, c'était la passion des enfants et aussi l'attention, parce que il y avait des œuvres qui n'étaient pas faciles. On n'a pas fait Pierre et le Loup, on n'a pas fait le Carnaval des animaux. Hein. Le principe, c'était quand même d'amener de la musique extrêmement complexe et de voir la réaction spontanée des enfants. Et ça, c'est absolument magique.
Alors, on va écouter un deuxième extrait d'une de vos œuvres qui s'appelle Première Symphonie. Pourquoi il défixe comme sous-titre ?
L'idée fixe, c'est ce qui a sous-tendu la symphonie fantastique d'Hector Berlioz, c'est-à-dire la première œuvre que je qualifierais presque de cyclique. Et j'avais envie de rendre hommage à cette symphonie fondamentale du répertoire français du 19e. Du coup, celle qui est devenue la première symphonie et qui a été créée pile jour pour jour, il y a 2 ans, par l'Orchestre Philharmonique de Radio France, reprend cette idée de, non pas de cycle, mais là peut-être plus d'insistance, d'obstination.
Bruno Mantovani, j'aime bien me balader avec votre musique et j'aimerais bien y rester un petit moment, mais là, il faut que l'on parle d'une autre œuvre qui n'est pas de vous. Celle-là, elle est de Cimarosa, ça s'appelle Le mariage secret. Vous allez nous le dire en italien quand même.
Il matrimonio segreto.
Alors, c'est encore le passé du conservatoire, parce que c'était en mars, c'est pas très vieux, et c'est ce grand moment où tous les talents du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse sont à la Philharmonie dans une très grande salle. C'est un moment important, ça?
Alors en fait, cet opéra-là, c'est en coproduction avec la Philharmonie, mais ça se passe dans la salle d'art lyrique du Conservatoire, qui s'appelle maintenant salle Rémy Fimelin, qui était le nom de notre cher président du Conservatoire, du conseil d'administration du Conservatoire, qui nous a quittés il y a quelques mois. Et donc la salle a pris son nom depuis qu'on a inauguré cette salle. Mais chaque année, on essaie de regrouper le plus de troupes du conservatoire au service d'une œuvre lyrique. Donc c'est évidemment les chanteurs, les pianistes, chefs de chant, l'orchestre, les ingénieurs du son qui captent, ce qu'on va entendre est capté par les ingénieurs du son du conservatoire.
C'est-à-dire qu'il y a une classe ingénieurs du son au conservatoire?
Oui, absolument. On forme notamment beaucoup de musiciens metteurs en ondes de Radio France d'ailleurs, qui viennent des classes du conservatoire. Et donc, chaque année, on essaie de trouver un opéra qui colle avec les effectifs dont on dispose, avec les chanteurs dont on dispose dans la maison. Et cette année, mon choix s'est porté sur cette œuvre que j'adore depuis toujours, qui est une œuvre totalement animée. C'est une œuvre où il n'y a jamais de temps mort. Ça court tout le temps, ça avance tout le temps. Ça a été une grande influence dans mon propre travail, d'ailleurs, le mariage secret. Et là, l'idée, c'était aussi de confronter les élèves à une œuvre qui peut-être ils ne connaissaient pas, qui était un grand succès. Vous savez, c'est le seul opéra de l'histoire de la musique qui a été bissé à sa première.
Ah oui, donc, c'est contemporain de Mozart?
Oui, à peu près ça, un petit peu postérieur de Mozart. Et donc, qui est une œuvre qui était, je dirais, très populaire, qui a quelques joyaux, comme on va l'entendre. Et chaque année, donc, on propose dans notre saison un opéra, et on propose, vous parliez tout à l'heure avec Mathilde de son concours de sortie, juste préciser aux éditeurs de France Culture que les concours de sortie du conservatoire sont publics.
Alors, on va en reparler juste après avoir écouté Le mariage secret. On reparle de ce concours. Je voudrais pas l'angoisser pendant l'émission. Lisetta va sposar Ah, mais quelle belle œuvre! Pas si connue que ça, quand même, hein, Cimarosa. Dommage.
Eh oui, dommage. Mais justement, le conservatoire est là pour offrir aussi la promotion d'ouvrages que l'on n'entend pas dans les autres maisons.
Eh oui, je rappelle, les chanteurs sont tous des étudiants du conservatoire, l'orchestre également, la prise de son, comme vous le disiez, et les costumes et les accessoires, nous ne les voyons pas évidemment, mais ont été réalisés par le lycée polyvalent Jules Verne de Sartrouville. Là aussi, des partenariats systématiques pour ouvrir de plus en plus...
Oui, absolument. En fait,
les portes de l'opéra.
En dehors des deux metteurs en scène et du chef d'orchestre qui est Patrick Davin, toutes les troupes nécessaires pour cet opéra sont ce qu'on a des élèves ou des étudiants de chez nous, d'école, hein, avec lesquels on a des partenariats.
Est-ce que vous vous souvenez, Mathilde Klein, la première fois que vous avez joué en public, alors que vous étiez étudiante au conservatoire, ça dure 5 ans, vous nous avez dit, et quelle importance ça a quand on étudie un instrument, quand on est au conservatoire national, d'être très vite confronté au public, au vrai public?
Je crois que dans le cadre du conservatoire, mon premier concert, ça devait être au sein d'une série avec l'orchestre. Et je me souviens de cette première série, c'était aux Invalides. C'était un beau concert. C'est vrai que c'est arrivé vite, vite après la rentrée, où moi, effectivement, j'avais pas beaucoup d'expérience d'orchestre quand je suis arrivée au conservatoire. Et du coup, c'est vrai que c'était nouveau pour moi à cette époque, de passer 5 jours à répéter, puis concert. C'est vrai que c'était une des premières fois pour moi quand je suis arrivée.
C'est amusant parce qu'on a l'impression que c'est devenu naturel. Ça n'a pas toujours été comme ça, dommage. Alors, vous ouvrez, vous nous le disiez, Bruno Mantovani, les concours au public, tout.
Oui, tous les concours de sortie, de master ou de premier cycle, qui s'appelle DNSP, enfin, peu importe, et y compris les certificats de danse. Sans public, donc il y a une petite plaquette qui est éditée par le conservatoire qu'on peut se procurer en se connectant sur le site, où vous avez la liste de tous les concours de sortie et vous avez tous les auditeurs de France Culture sont évidemment bien invités à ces moments magiques.
Bon, et on tremblera un peu pour vous, c'est un moment important, hein, le moment du concours. Oui, c'est le moment où on quitte aussi cette maison qui a l'air quand même assez chaleureuse.
Oui, tout à fait. Oui.
Hein, et protectrice.
Ah oui, complètement.
Maintenant, chacun pour soi, c'est
non.
Ça
Non.
Vous avez envie de rentrer dans un orchestre?
C'est dans mes projets, bien sûr, mais je pense qu'en sortant, je vais prendre un peu le temps de vadrouiller.
C'est une belle idée. Merci à tous les deux d'être venus. Mathilde Klein, violoniste, étudiante, bientôt ex-étudiante du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse, dirigé par Bruno Mantovani, qui est aussi chef d'orchestre et compositeur. Merci d'être venus tous les deux nous présenter ce lieu magique qui est le conservatoire, où on peut aller même si on n'est pas musicien, au moment des concours, par exemple, et aussi des concerts. Eh bien, les chemins buissonniers arrivent au bout pour aujourd'hui, bien sûr, mais vous pouvez retrouver et télécharger cette émission sur le site de franceculture.fr. Le temps buissonnier, c'est toute une équipe, hein, c'est comme un orchestre. Aline Paillet, Franck Guilin, Annie Comier, à la technique aujourd'hui, Alain Joubert, qui n'est pas passé par le conservatoire, je ne crois pas, mais il y a plein d'autres écoles pour former les ingénieurs du son. Et oui, c'est un beau métier et il y a de plus en plus de femmes, donc voilà, pensez-y puisque c'est le moment où on réfléchit à ce qu'on va faire l'année prochaine. Je vous laisse en compagnie du premier journal sur France Culture. Bonne semaine, à dimanche prochain.